vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio France Alzheimer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association. Nous allons parler aujourd'hui d'un livre, « Dis, tu reviendras » de Roger Gilles, publié aux éditions ERES. Visiter nos proches âgés, c'est très important, voire fondamental. Et si on ne le fait pas, les souffrances sont indéniables. La pandémie et donc la suppression, puis la restriction des visites a eu des conséquences importantes chez les familles comme sur les malades, ce qui met en exergue l'importance de se voir, de se parler et de se toucher. Pour nous parler de cette thématique, nous sommes donc en ligne avec l'auteur de ce livre, Roger Gilles, professeur émérite de neurologie à l'université de Poitiers, neuropsychiatre. Il a également coordonné pendant la pandémie en Nouvelle-Aquitaine, en lien avec France Alzheimer, une cellule d'écoute et de dialogue éthique attentive aux détresses des familles et des équipes des établissements pour personnes âgées. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors j'ai résumé bien sûr en quelques mots votre ouvrage. Évidemment, je vous laisse la parole pour nous expliquer, pour commencer peut-être, l'essence même de ce livre.
Oui, en fait, c'est bien parti des constatations de la pandémie et surtout des mesures restrictives qui ont été apportées aux visites, d'abord interdites, puis ensuite réintroduites au goutte à goutte. Et alors, ce qu'il est apparu, c'est que les visites étaient plutôt considérées comme un divertissement, comme une concession heureuse qui pouvait de temps en temps être faite à des familles, et dans des conditions qui étaient des conditions mutilantes, d'une part fixées par des recommandations, la durée des visites à une demi-heure ou une heure, la fréquence des visites, et surtout d'autres constats qui sont normalement étrangers à la visite, la distanciation physique de 2 mètres ou plus, la barrière de plexiglas auquel on ajoutait les masques, bref, des mesures de sécurité redondantes. Et évidemment, l'observation a pu être rapidement faite qu'il ne s'agissait pas d'une restriction des libertés au point de vue rationnel. Non, on peut toujours accepter une restriction des libertés quand cette restriction est comprise. Mais en fait, il s'agissait d'une atteinte à la santé même et au bien-être des résidents. Des directrices et directeurs d'EHPAD ont constaté que certaines personnes supportaient l'espacement des visites, mais d'autres ne mangeaient plus, ne bougeaient plus, n'étaient pas adaptées aux moyens de communication qui étaient proposés. Bref, ils perdaient le goût, le désir même de vivre. Alors, ceci, évidemment, donne la vision d'une éthique incarnée. Il n'est pas question de discuter seulement de liberté, il est question de dire qu'en fonction des besoins de chacun, les mesures sanitaires doivent s'adapter à des réalités humaines. Or, ce qui est apparu, c'est que la visite avait perdu son sens. D'où l'idée de cet ouvrage qui était de reconsidérer le sens de la visite sur un plan anthropologique, c'est-à-dire qu'est-ce que la visite dit de l'humanité. Et alors, pour ce faire, l'ouvrage commence par explorer la visite dans les grands courants religieux. Tous s'accordent pour constater que la visite est non seulement un droit, mais un devoir des proches de visiter ceux d'entre eux qui sont malades, ceux d'entre eux qui sont âgés, ceux d'entre eux qui sont frappés dans leur vulnérabilité. Et que, du coup, la visite est une donnée humanisante qui a parcouru tous les temps, mais qu'on avait oublié. Alors, comment aller plus loin pour réfléchir à l'anthropologie de la visite, à son sens pour l'humanité? Eh bien, je me suis retourné vers la littérature. de Marcel Proust à Pierre Loti, d'Albert Camus à Platon, de Tolstoï à Montaigne, on s'aperçoit que les visites construisent l'histoire de chacun. Elles construisent l'histoire du groupe social, elles construisent l'histoire du groupe familial. Elles sont un besoin fondamental de l'être humain dès lors qu'il s'inscrit dans une histoire. Et puis du coup, avec ce parcours littéraire, qui est aussi une occasion de relire de magnifiques auteurs, eh bien nous en venons au témoignage des familles dans l'expérience de la pandémie. Et nous trouvons effectivement que nous avions oublié le sens de la visite. Voilà, il faut restituer culturellement le sens de la visite pour l'humanité. L'homme, l'être humain, en fonction de ses besoins, ne peut pas être privé de visite. D'ailleurs, dans les EHPAD, les soignants rentrés, comment a-t-on pu interdire totalement les visites et ensuite les autoriser au compte-gouttes et dans des conditions mutilantes, car la visite, elle s'inscrit, nous disons en neuropsychologie, dans l'espace péripersonnel. Si on n'est pas proche de quelqu'un, si on ne peut pas le toucher, on n'est pas en situation de visite, on aperçoit quelqu'un. Et ça, on n'avait pas compris. On a interdit de toucher la main du proche, toucher la main de sa mère, de son père, de son compagnon, alors qu'il y avait du gel hydroalcoolique. Alors si le gel hydroalcoolique sert aux soignants pour se désinfecter, pourquoi n'a-t-on pas autorisé cette proximité qui est essentielle à la prise de sens de la visite? Voilà un résumé un peu panoramique de l'argument de cet ouvrage.
Alors c'est extrêmement intéressant, et justement, comment on étudie une approche anthropologique de la visite? Vous avez bien sûr étudié via des auteurs, vous les avez cités tout à l'heure, mais justement, comment vous avez procédé pour comprendre le sens profond de ce mot?
Il faut parcourir les textes religieux, parcourir les textes littéraires et voir ce qu'ils disent de la visite. La visite, c'est un tressaillement de tout l'être. C'est une rencontre de deux êtres, c'est une proximité, c'est « tu reviendras », comme disait la mère d'Albert Camus à son fils. Le sens humain de la visite apparaît à travers ce besoin qu'elle constitue pour la vie en société, et aussi ce besoin d'être protégé, ce besoin, disait Edgar Morin, de reliance, d'être relié à d'autres. Or, évidemment, la visite aux proches revêt une importance considérable. Et d'ailleurs, quand on remonte dans la nuit des temps, on constate que l'être humain ne pouvait pas vivre isolé et qu'il devait d'abord compter sur le groupe des plus proches de lui pour être en sécurité, pour se sentir relié à un monde. L'être humain ne peut pas être délié du monde dans lequel il vit.
Alors justement, après ces recherches, quel sens de la visite retrouve-t-on après avoir lu votre ouvrage?
Eh bien, on prend conscience qu'on ne peut pas malmener la visite et que la visite doit être conçue comme un droit et en même temps un devoir, parce qu'on a vu des familles culpabilisées de ne pas pouvoir visiter leurs proches. Donc la visite, c'est cette rencontre qui et une marche vers autrui, autrui qui vous accueille et qui ainsi tresse son réseau d'affection et de liens sans lequel, eh bien, il se sentirait perdu, oublié. Et du coup, le sentiment d'abandon qui naît alors et qu'on a vu naître pendant la pandémie est telle que ça désamorce le désir même de vivre. Alors, ce qu'il y a aussi de très important, et pour nos personnes Alzheimer, c'est absolument capital, c'est que la justice, ce n'est pas une part égale pour tous, c'est une réflexion sur les besoins de chacun. Bien entendu que certaines personnes pouvaient supporter des visites espacées, mais d'autres ne le pouvaient pas, ne le pouvaient pas et dépérissaient. Eh bien, la justice suprême, ça s'appelle l'équité. C'est l'adaptation aux besoins de l'autre, puisque la restriction des visites chez certains atteignait un seuil de déshumanisation. Dans l'accompagnement des personnes vulnérables, il nous revient de les accompagner au plus près de leurs besoins vitaux.
Pour comprendre certaines réflexions de votre livre, j'aimerais aussi que l'on revienne sur la pandémie de 2020. Elle a eu un effet dévastateur, hein, disons-le. Est-ce que vous pouvez encore aujourd'hui mesurer les conséquences sur certaines familles ou sur certains malades?
Oui, on a encore des témoignages. Alors évidemment, dans la visite va jusqu'à l'accompagnement de fin de vie et l'accompagnement du défunt. Eh bien, il existe des familles dont l'accompagnement de fin de vie n'a pas pu être réalisé de manière optimale, a été réalisé de manière furtive, dans des conditions difficiles. Et il existe des cicatrices. Et alors, les cicatrices sont maximales pour les familles qui ont vu le rituel de l'accompagnement du défunt complètement bouleversé et mutilé par la pandémie. Il y a des familles qui disent encore aujourd'hui leur désarroi de ne pas avoir aperçu quelques instants le visage de leurs proches, ces proches qu'on précipitait dans des housses en plastique. Oui, qu'on précipitait, car le terme de mise en bière immédiate a été interprété de manière populaire, alors qu'il s'agit d'une mise en bière aussi rapide que possible dans les 24 heures. Il y a eu une espèce de surenchère sécuritaire. Et d'ailleurs, le Conseil d'État a dit à quel point ces mesures prises à l'égard des défunts avaient été excessives. Oui, il existe encore aujourd'hui des deuils qui ne se sont pas achevés, ce qu'on appelle le travail de deuil, et des souffrances qui persistent. Voilà pourquoi, évidemment, on évoque l'idée d'un mémoriel, faire mémoire de ces souffrances, contribuera peut-être aussi à les apaiser.
Et puis enfin, Roger Gilles, dernière question pour clore cette émission. Que dire aux familles qui portent encore la culpabilité de cette pandémie? Que leur dire après vos recherches et les 3 années qui viennent de s'écouler?
Ah, ce que je crois profondément, c'est qu'il faut être à leur écoute. Dans ce genre de situation, c'est le partage qui peu à peu vient libérer. La culpabilité, qui est un sentiment initialement irrépressible, va s'atténuer progressivement dans ce travail de mémoire, dans ce partage, dans cette prise en considération de leur souffrance. Ça, c'est un élément important. Alors, elles se sont trouvées piégées dans un système hyper sécuritaire, mais elles pourront en sortir à condition d'être écoutées et d'être considérées, pas seulement d'avoir été considérées jadis comme indisciplinées ou etc. Non, voilà, elles ont tout fait pour essayer, elles n'ont pas réussi à accomplir l'accompagnement idéal, mais aujourd'hui, elles doivent être entendues. Et je pense que c'est cette attention qui est portée à leur souffrance qui finira par les atténuer.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Roger Gilles, de nous avoir répondu.
Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.
Et merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur cette antenne. Vous pouvez continuer, bien entendu, de nous écouter, de nous écrire. Vous pouvez aussi réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio. www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.